Chapitre 7. Lorsque je revins au domaine au volant du Range, la nuit était tombée. Aucune barrière n'en marquait l'entrée, rien qu'une large ouverture dans un mur bas de vieilles pierres empilées, et pourtant c'était l'un des lieux les mieux protégés du groupe. L'abbaye se révéla au détour du chemin. Sa façade couverte de vignes vierges rendue luisante par la pluie s'illumina dans les phares. Andrew m'attendait en haut des marches, sous le porche. « J'étais inquiet, tu n'as pas eu de problème ?»« Pas cette fois. Hier soir m'a suffi. » Il ne trouva pas ça drôle. Depuis mon arrivée, je n'avais pas beaucoup fait rire. Andrew était sans doute le plus touché par ce qui m'arrivait. Quelle que soit la décision prise, j'étais certain de le conserver comme allié. C'était déjà un réconfort. Je sentais son constant soutien. Comme avant les tournages difficiles ou les opérations dangereuses, nous avions partagé le pire et le meilleur de notre apprentissage. Il comprenait tout de ma façon de voir, et pour cause, nous avions la même. Il savait déjà que je n'accepterais pas de disparaître. Je secouais les gouttes de pluie tombées sur moi durant les quelques mètres qui séparaient la voiture du bâtiment et pénétrais à l'intérieur. Je n'avais pas eu de nouvelles de Nathan depuis la veille. J'entraînai donc Andrew vers la salle des transmissions. Ici, nous n'utilisions que des lignes sécurisées et cryptées pour communiquer avec l'extérieur. Les smartphones, trop facilement traçables, étaient bannis. De toute façon, je ne pouvais me manifester auprès de personne tant que cette affaire ne serait pas réglée. Les toubibs qui le suivaient affirmaient que Nathan allait bien, physiquement parlant. Mais ils voulaient savoir pourquoi j'étais introuvable, moi ou mon cadavre. Il insistait pour retourner sur les lieux de l'attentat. Il voulait me retrouver. Dans les médias, l'explosion avait été présentée soit comme un accident inexpliqué, soit comme un règlement de compte contre le programme immobilier du Golfe. La piste du terrorisme était bien sûr explorée, mais il n'y avait eu aucune revendication et le lieu n'avait a priori aucun sens pour quelque cause ou idéologie que ce soit. Il restait encore un peu de temps avant le dîner. Andrew retourna avancer avec l'équipe, mais puisque je ne pouvais pas être utile pour le moment, je décidai d'aller à la bibliothèque. Celle qui avait été aménagée dans l'abbaye était toujours située là où les cisterciens l'avaient créée, 8 siècles plus tôt. Elle s'étendait à présent également dans l'ancien scriptorium. J'avais toujours aimé les bibliothèques. Elles sont l'expression de la richesse de la vie, du savoir, de la liberté d'apprendre, de la transmission de l'expérience par-delà la mort. Sous les voûtes en ogive, des volumes s'alignaient à perte de vue, couvrant les murs. Sur de sobres tables de chêne placées dans les travées entre les piliers, des frères en habit, tuniques blanches et scapulaires noirs, travaillaient en silence. Certains des ouvrages conservés et étudiés ici avaient plus de 900 ans. Ils avaient réchappé des folies de l'histoire, souvent grâce aux ordres religieux, qui, les premiers, avaient constitué des archives écrites, consignant et protégeant le savoir. Les moines qui étudiaient ici poursuivaient la mission que s'étaient fixée leurs frères plus d'un millénaire avant eux. L'esprit restait identique, même si l'informatique avait remplacé le parchemin et les plumes. L'odeur du vieux papier et des reliures pluriséculaires, le poids d'un ancestral volume traitant de magie d'une autre époque, le côté désuet de savoir simple, aujourd'hui trop souvent oublié, la douceur d'une couverture de cuir usée par des dizaines et des dizaines de mains respectueuses, tous ces grimoires, ces codex, ces comptes rendus d'expériences scientifiques, ces traités de médecine, d'arithmétique, d'architecture, de philosophie ou de géographie, ces ouvrages en provenance de tant de pays, cet univers entier donnait envie de rester là, à apprendre les vies que d'autres avaient vécues. J'allais de livre en livre comme une abeille à la recherche du pollen. Décidément, on n'a jamais assez de temps. Les frères me regardaient faire, approuvant de loin ma curiosité et ma révérence pour les ouvrages que j'avais la chance de pouvoir ouvrir. Je ne vis pas les heures passer et fus surpris quand un garde vint m'informer que le dîner était servi. Je descendis de l'escabeau après avoir replacé sur son rayonnage le traité de chimie que j'étais en train de consulter. Depuis combien de temps n'avait-il pas été lu? Quand quelqu'un le rouvrirait-il de nouveau? Je saluai les frères en sortant. La vie me rappelait loin de cette paix si riche et si rassurante, hors du temps. Une pensée me traversa l'esprit. Dans quelques heures, mon destin serait scellé.